Je vais tout de suite passer la parole donc, à la personne qui va être discutant pour embrayer avant de laisser le micro à la salle.
Merci. Tout d'abord, merci de m'avoir invité, d'avoir donné le plaisir de participer à ce débat, puis de rencontrer des amis. Et puis c'est toujours un plaisir d'écouter Claude-Olivier Doron. Donc je vais essayer vraiment, ce que font jamais les discutants, je vais essayer de discuter ce qui a été dit. Et puis ensuite, Claude-Olivier, vous pourrez discuter de mes discussions, et moi je ne discuterai pas ce que vous direz de mes discussions, parce que sinon on n'en finirait plus. Alors, je vais d'abord me rapprocher de votre pensée, et puis ensuite peut-être dire deux ou trois points sur la question spécifique du soin et de la contrainte en psychiatrie. Alors, tout d'abord, vous avez bien dit au début que vous vous teniez à l'écart d'une position, de la position archétypale du philosophe, et que là, vous rentrez dans des éléments très précis, très concrets, et donc qui doivent être pris dans le réel. Et moi, je vais essayer effectivement de ne pas prendre la position du psychiatre défenseur des libertés et constamment attaqué, effectivement, d'être au contraire un allié de la répression. La première question, c'est celle du soin que vous posez, et elle est, à mon avis, fondamentale, parce qu'il n'y a pas de légitimité d'intervention sans la légitimité du soin. Mais encore faut-il savoir ce qu'on veut dire par soin. Pour aborder, par exemple, la question du soin, alors je mettrai soin / traitement des pathologies sexuelles. Au Royal College de Psychiatrie, donc les collègues anglais, dans un premier temps, ont refusé de prendre en charge. Alors là, parlons des grandes perversions sexuelles, des grandes tragédies humaines, pas des problématiques conflictuelles, en disant nous n'avons pas de traitement. Et ça renvoie effectivement à ce que vous avez dit de ceux qui se présentent comme ayant des traitements mais n'étant pas des soignants et auxiliaires de la justice. Eux disent, nous en tant que médecins, on ne peut pas s'occuper de ces grands pervers parce que nous n'avons pas de traitement. Grande délibération au niveau du Royal College, et il apparaît que, et c'est une évidence, qu'en médecine, on soigne beaucoup de pathologies qu'on ne traite pas. Donc la question du traitement, c'est-à-dire d'arriver à un objectif de guérison ou de paraguérison, est un élément, mais qu'il faut bien différencier du soin, qui est une action de prise en charge, d'accompagnement, et qui est très différente. Et donc, ils ont été dégoûtés, et le fait de ne pas avoir de traitement ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas soigner. Et petite incidente par rapport à ce que vous évoquiez de ces condamnés à qui qu'on va obliger aux soins alors qu'ils ne se reconnaissent pas forcément comme nécessitant des soins, deux remarques. Premièrement, en tant que psychiatre, je me suis souvent interrogé sur le degré de libre arbitre qu'ont ces grandes pathologies perverses, puisque donc le psychiatre, pour la responsabilité, donc met la ligne sur, au fond, libre dans son acte ou pas. Quelle est la liberté des grands pervers? Donc ils sont systématiquement confrontés aux juges, systématiquement punis, et donc on se défausse. Peut-être que la bonne réponse, ça serait, mais alors, que faire? Ça c'est une autre question, ça serait, donc, ils n'avaient pas de liberté dans l'acte. Ça c'est la première, c'est le premier point. Donc, le second, de façon globale, par rapport à cette reconnaissance de la souffrance qu'il pourrait avoir, et cette souffrance amènerait un soin à une rédemption, les chiffres montrent, par exemple, que le repentir et la reconnaissance des faits ne prédit pas la non-récidive. Contrairement à ce qu'on peut penser, le coupable qui pleure dans son box et qui dit « je suis ignoble », eh bien, ça ne garantit pas qu'il ne va pas récidiver plus que celui qui aura une position contraire, hautaine et distanciée. Donc tout ça est extrêmement compliqué, et c'est vrai qu'on peut faire jouer à la psychiatrie. Alors, j'avais noté ce que disait Michel Foucault de la psychiatrie. Alors, eh bien, la position de Foucault, mais elle est intéressante parce que même si elle est caricaturale, elle dit quelque chose de l'image des psychiatres et de la psychiatrie. Ils nous définissaient comme des fonctionnaires de l'hygiène publique chargés de contrôler tout ce qui est désordre et danger. Alors, donc, si on ne le fait pas, c'est vrai que de temps en temps, on tente de nous amener sur cette ligne très particulière du contrôle social. Et on le sait, dans la loi de sûreté, un célèbre ancien garde des Sceaux, un grand humaniste et c'est pas l'inter, quand il y a eu cette question de savoir qu'est-ce qu'on fait une fois que ces longues peines vont sortir et qu'au fond on voudrait bien les garder, Badinter, dans un premier temps, a dit, faisons un show. On va demander au psychiatre. Alors, le type, il a fait 30 ans, il a été déclaré responsable de ses actes, il a fait 30 ans, il a vu, 12 fois un psychiatre. De toute façon, on sait bien que c'est une illusion de penser qu'il y a une réponse thérapeutique à ces grandes questions de personnalité. Et donc, Badinter disait, parce qu'on fait bien un psychiatre, ils font un show, donc on n'est plus dans la problématique d'une surpeine, et donc on évite d'être retoqué au niveau du conseil fonctionnel, parce que les psychiatres font un HO, alors le HO c'est hors du temps, et on règle le problème. Le problème aurait été réglé autrement, il est quand même réglé par quelque chose d'extrêmement problématique au niveau de la psychiatrie, c'est deux psychiatres, à la fin donc de la peine, pourraient dire qu'il y a un traitement à engager, alors que le condamné a fait ses 25 ans ou ses 30 ans, et donc c'est quand même sur une position psychiatrique, et c'est passé. Donc c'est sur une position psychiatrique que pourrait venir cette peine infinie qui tous les ans serait renouvelée. Et donc, donc là je crois qu'on est bien dans la contradiction très profonde sur laquelle la société, ou une certaine façon de gérer la société, voudrait amener les psychiatres. Donc ça, c'est un point que je voulais évoquer. Les psychiatres, d'ailleurs, sont pas battre notre coupe, mais sont un petit peu responsables de cette question-là, par rapport à la toute-puissance du soin, puisque certains ont dit que, et même parfois avec une bonne intention, s'il y avait plus de moyens, s'il y avait plus de psychiatres, s'il y avait plus de soins, on sortirait la société de son embarras. Donc les politiques l'écoutent, ça. Moi, j'ai récemment vu un président du Conseil général écouter tout à fait ébahi des collègues pédopsychiatres qui lui disaient « S'il y a plus de consultations pour ados, il y aura moins de passages à l'acte. » Ben, il le croit. Il le croit, le politique, parce que d'abord, ça l'arrange bien. D'abord, il pense qu'il a enfin une solution, et c'est tragique parce que ça ne marchera pas. Donc, il va y avoir, les problèmes vont continuer. Et à ce moment-là, on va dire, encore une preuve de l'inefficacité de la psychiatrie. Donc, toute cette zone de confrontation entre le social et la psychiatrie est délicate. Et si en plus, effectivement, il y a le problème des libertés, ça peut devenir une tragédie. Ça c'était le point que je voulais voir. Alors, vous avez commencé sur cette question, effectivement, des rapports entre les pratiques, les principes, on peut dire, et l'éthique. C'est très intéressant parce que sur un plan historique, on voit effectivement que la psychiatrie, dans son rapport aux libertés, a constamment eu des principes différents, des objectifs différents et des références éthiques différentes, avec parfois des contradictions extrêmement intéressantes. L'asile tel qu'il a été construit au début du XIXe siècle et tel au fond qu'il était encore présent il y a 30 ans et tel que, dit Betty, tel qu'on le voit encore de temps en temps en France. C'est-à-dire que 170 ans après la loi de 38, il y a encore des endroits où on a l'impression que la pulse s'est arrêtée. Donc, quand se constitue l'asile, tout a été dit sur l'asile, son rôle d'exclusion, etc. Mais quand on lit les textes des anciens, certains, Esquirol, Pinel, disent que c'est une machine à guérir. Donc on est devant une contradiction, c'est là où on voit la fragilité des théories, c'est-à-dire que quelles que soient les théories, il faut toujours les discuter, et jamais une théorie, enfin je ne sais pas ce qu'en pense le philosophe, mais une théorie c'est une façon d'avis, enfin c'est une façon de penser, c'est pas forcément une vérité. Le problème c'est que, comme souvent les médecins, et particulièrement les psychiatres, ils ont une adhésion aux théories très très forte, c'est-à-dire que les théories deviennent des vérités, et ça peut amener parfois à des tragédies. Donc il suffit d'ailleurs de suivre le parcours du soin en psychiatrie pour voir que on n'a pas évité beaucoup de mésaventures aux malades, avec toujours de très bonnes intentions. Moi, quand j'ai commencé à être praticien hospitalier à l'hôpital de Clermont-Loise, 15 ans auparavant, il y avait un psychiatre à Clermont-Loise qui avait une célébrité qui allait jusque dans le sud de la Belgique, parce que il reprenait la théorie du schizocoque et il faisait des trépanations avec injection de rimifon intracérébral, ce qui est une horreur, mais ce qui à l'époque était très moderne. Et c'est le même qui dans l'hôpital a le premier utilisé les neuroleptiques, alors que ses collègues étaient assez réticents. Donc c'est ce recul qu'il faut toujours avoir vis-à-vis des évidences, et ça c'est une nécessité absolue. Alors, la psychiatrie s'est constituée tout un appareil juridique en relation aux libertés, qui a fonctionné relativement correctement. Elle a une particularité, c'est pratiquement maintenant un des seuls pays au monde qui fait gérer la question des libertés sur un plan administratif. Et on sait que récemment, alors que beaucoup de dispositions sont hyper sécuritaires, c'est comme toujours, on fait passer 90% de sécuritaires avec 10% d'humanisme et d'ouverture, et les gens ne voient pas ce qui se passe derrière. Le fait que le juge des libertés interviendra au 15e jour ne change rien à l'affaire, qu'en fait il y a de plus en plus de contraintes et de plus en plus de difficultés dans certains départements à faire sortir les personnes sous contrainte. Donc on habille toujours avec de plus en plus de références libérales des messages extrêmement sécuritaires. Et donc Jean-Louis Senon dit au fond, on passe d'une société du bien-être à une société libérale, on passe d'une philosophie humaniste à une philosophie les philosophes anglais pragmatiques comme Bentham, etc. C'est-à-dire qu'au fond, si quelque chose fonctionne, c'est que c'est bon. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace qui soit uniquement d'efficacité, et que si pour la sécurité de quelques-uns, il faut être liberticide, c'est une tragédie. Sur cette question, effectivement, de ce qu'on demande au psychiatre d'être en même temps un gardien des libertés, mais en même temps d'être celui qui assume les privations de liberté, il y a cette fameuse phrase d'Henriet qui est toujours reprise et qui est acceptée comme au fond une vérité. La maladie mentale, c'est la pathologie de la liberté. Oui, c'est pas la seule. Il y a beaucoup de maladies qui sont des pathologies de la liberté. Et Georges-Henri Laura avait fait toute une argumentation assez critique sur cette façon, qui est qui est pour la psychiatrie une façon de se libérer assez vite de la question. Nous traitons des pathologies de la liberté, et pour au fond désaliéner certains, il faut les priver de liberté. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et moi, plusieurs de mes collègues, bien sûr, ont réfléchi à ça, mais il y a eu beaucoup de réflexions en psychiatrie sur la question du soin, sur la question de l'ambulatoire en particulier, sur la place que ça peut avoir. Enfin, je veux dire qu'en France, il y a eu une très bonne réflexion et vraiment un très bon niveau de prise en charge en ambulatoire. Mais justement, cette croyance que les problèmes allaient se régler dans l'ambulatoire ont évité de penser l'hôpital et la contrainte. Et là, il y a un désert de réflexion sur quel sens ça a. Alors, en dehors, bien sûr, des situations de péril imminent, de danger, mais sinon, dans le parcours de la maladie mentale, quel sens ça a ? Quand je dis quel sens ça a, moi, je ne suis pas contre, je ne suis pas ceux qui diabolisent l'hospitalisation, je pense que ça a réellement sa place. Le problème, c'est que on a peu théorisé sur cette question, et on voit que le dispositif psychiatrique hospitalier est un pur calque du dispositif médical classique, alors qu'on est dans un champ complètement différent. Au fond, qu'est-ce qui ressemble maintenant ? Pendant très longtemps, les hôpitaux psychiatriques ont ressemblé plus à des pensionnats ou à des prisons qu'à des hôpitaux. Mais maintenant qu'ils ressemblent à des hôpitaux, qu'est-ce qui les différencie des hôpitaux somatiques, alors que le sujet est totalement différent ? Donc il y aurait peut-être qu'il faudrait penser à quelque chose d'autre.